VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le gouvernement du Niger a annoncé aujourd'hui la réouverture du campus de Niamey, le plus important du pays, fermé depuis le 18 avril après des troubles à l'université. La décision de rouvrir le campus intervient après la levée lundi d'une grève illimitée des étudiants, a déclaré le ministre de l'enseignement supérieur Yaoussa Tsadissou sur une télévision locale. L'Union des scolaires nigériens, USN, un syndicat qui recrute du primaire jusqu'à l'université, avait lancé une grève illimitée le 20 avril pour exiger l'annulation de l'exclusion en mars de 5 étudiants, la réouverture du campus de Niamey et l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité à l'université. Au Tchad, les heures de travail passeront de 37 à 40. C'est une injonction du président Idriss Déby Itno qui veut contraindre les travailleurs à, je cite, une obligation de résultat. Pour Mbaka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, le problème de l'administration tchadienne est ailleurs.
Les nominations à des postes de responsabilité sont des nominations politiques. Si ce n'est pas politique, c'est basé sur le népotisme. Si ce n'est pas le népotisme, c'est la corruption. Deuxièmement, les conditions dans lesquels les gens travaillent aujourd'hui ne peut pas donner un rendement important. Les gens sont parfois dans l'obscurité. Ils sont dans 45 degrés. Autant d'éléments qui nous amènent à dire simplement à M. Déby, avec ces gens-là, même s'ils donnent 50 heures, il n'y aura pas un rendement. Aujourd'hui, le problème réside dans l'organisation du travail. Ce n'est pas le problème du nombre d'heures de travail.
Michel Baka, président de l'Union des syndicats du Tchad. Gambie, l'ex-président Yahya Jammeh est mis en cause dans le meurtre de dizaines de migrants. Les meurtres qui remontent à juillet 2005 visaient des migrants clandestins, 44 Ghanéens et plusieurs Nigériens, Sénégalais et Togolais arrêtés sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Ils étaient alors soupçonnés d'être des mercenaires venus renverser M. Jammeh, selon un communiqué de Human Rights Watch et de l'ONG Trial qui s'appuie sur des entretiens menés depuis 2 ans avec une trentaine d'anciens responsables de la sécurité gambienne. Au Nigeria, Ibrahim Zakzaki, le leader chiite nigérian emprisonné depuis plus de 2 ans, a comparu hier devant un tribunal d'Abuja. L'audience portait sur les affrontements meurtriers de 2015 entre ses partisans et l'armée. Les précisions de Marie Benson.
C'est seulement la deuxième fois que Zakzaki, chef du mouvement islamique du Nigeria, apparaissait en public depuis son arrestation en décembre 2015. Sa femme et lui sont incarcérés à Abuja pour homicide volontaire, attroupement illégal et trouble à l'ordre public. Leur état de santé semble s'être dégradé. L'avocat des accusés, qui n'avait jamais été autorisé à les rencontrer, a pu parler quelques minutes avec Ibrahim Zakzaki. L'audience s'est tenue à huis clos, sous bonne garde des forces de sécurité. En l'absence d'autres accusés, le procès d'Ibrahim Zakzaki a été ajourné au 21 juin prochain. Fin 2016, le tribunal fédéral avait autorisé sa libération, mais les autorités nigérianes l'ont maintenu en détention. Ibrahim Zakzaki souhaitait établir un État islamique chiite au Nigeria. Ces dernières semaines, ses partisans ont organisé de nombreuses manifestations pour réclamer sa libération.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mardi à l'unanimité de prolonger jusqu'à mi-novembre sa mission de paix à Visnoa, à Abyei, région riche en pétrole, entre le Soudan et le Soudan du Sud, en réclamant à ces deux pays des efforts pour sa démilitarisation. L'avenir de la ville d'Abyei et de sa région, environ 100 000 habitants, reste en suspens depuis l'accord de paix de 2005 qui a mis fin à 2 décennies de guerre civile et s'est traduit sous l'impulsion des États-Unis par la création en 2011 du Soudan du Sud. La force Finchua compte quelque 4500 casques bleus. Les Burundais se prononcent demain jeudi par référendum sur une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en place jusqu'en 2034. Le projet de révision a été critiqué par la communauté internationale, notamment l'Union africaine qui n'a pas envoyé d'observateurs. Les organisations de défense des droits de l'homme ont également dénoncé la répression qui accompagne ce référendum et l'absence de réel débat démocratique. Jacques Aristide s'est entretenu avec Justine Duby, chargée du Burundi à la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme.
Le camp présidentiel a mené une campagne très vaste de répression pour s'assurer que la Constitution serait adoptée. On a le sentiment que voilà un plan bien huilé d'intimidation des opposants au référendum a été mis en œuvre. Le président lui-même, déjà à partir de novembre dernier, avait annoncé que toute personne qui s'opposerait au processus de référendum serait expédiée au ciel, selon ses propres mots. Nous avons documenté des meurtres, des passages à tabac, des actes de torture, des arrestations et des détentions illégales.
La FIDH et la Ligue ITK affirment que ce projet menace directement les équilibres issus de l'accord d'Arusha. Brièvement, expliquez-nous comment.
Ces équilibres et ces principes ont été dans la pratique largement dévoyés depuis 3 ans par les différentes mesures qui ont été prises par les autorités qui ont déjà concentré les pouvoirs entre leurs mains. Le parti présidentiel, le CNDD-FDD, depuis longtemps ne reconnaît pas ces accords. Donc pour eux, c'est une stratégie qui vise à court-circuiter l'accord d'Arusha en modifiant la constitution actuelle qui reconnaît que l'accord d'Arusha a une valeur supraconstitutionnelle, c'est-à-dire qu'il vaut plus que la constitution. Et donc leur objectif, et ils l'ont déclaré public, c'est de se détacher des liens légaux qui les obligent face à cet accord, dont l'objectif était, après la guerre civile des années 90, qui a fait des milliers de morts, de ressouder la société burundaise et de réconcilier les Burundais entre eux. Et dans le nouveau projet de constitution, il y a différentes dispositions qui concentrent les pouvoirs entre les mains du président et qui enlèvent des prérogatives au gouvernement, au parlement, qui permettaient justement d'assurer cette représentativité de l'ensemble des forces burundaises au sein du pouvoir.
Mais pour le gouvernement, le projet ne vient en aucun cas enterrer les accords d'Arusha. Il s'agit plutôt, d'après ce même gouvernement, de doter le pays d'institutions fortes, capables de mettre le Burundi à l'abri des crises cycliques de manière définitive. Ne faut-il donc pas donner le bénéfice du doute à ce régime burundais et attendre de voir ce que cette réforme apportera au pays ?
Pour nous, les objectifs de cette réforme sont très clairs. Quant au Burundi, les autorités burundaises disent qu'il faut adopter ce nouveau projet de constitution pour doter le Burundi d'institutions fortes. Quand elles disent qu'il faut réformer le code de procédure pénale pour faire face à la criminalité, nous ce qu'on constate c'est que la crise actuelle, la violence et les fractures qui divisent de plus en plus les Burundais, elles sont alimentées et générées par les autorités elles-mêmes. Et donc pour nous, ce projet constitutionnel est un stratagème pour renforcer le pouvoir au sein des mains du président Nkurunziza.
Justine Duby de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, jointe à Paris. Le gouvernement britannique critiqué pour ses atermoiements sur la sortie de l'Union européenne à l'approche du sommet européen de juin a annoncé aujourd'hui qu'il publierait un livre blanc pour présenter ses ambitions pour l'après-Brexit. Ce document va présenter ce qui changera et ce qui sera différent après la sortie de l'Union européenne, a déclaré le ministre du Brexit, David Davis, lors d'une réunion interministérielle sur le Brexit mardi, selon des propos rapportés par l'agence Presse Association. Selon la BBC, ce livre blanc de plus de 100 pages devrait être publié avant le sommet européen des 28 et 29 juin, alors que Bruxelles montre des signes d'impatience quant à l'avancée des négociations. La justice belge a annoncé aujourd'hui son refus d'exécuter les nouveaux mandats d'arrêt européens émis par l'Espagne en mars à l'encontre de 3 anciens membres de l'exécutif catalan déchus après la tentative avortée de sécession à la fin 2017. La Chambre du Conseil partage l'avis du procureur et de la défense selon lequel il n'existe pas de mandat d'arrêt nationaux valable correspondant au contenu des mandats d'arrêt européens, a justifié le tribunal néerlandophone de Bruxelles dans un communiqué.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À ce micro, Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, a confirmé aujourd'hui que du chlore avait été vraisemblablement utilisé comme arme chimique en février lors d'une attaque contre la ville syrienne de Sarakeb. Une mission d'enquête de l'OIAC a pu établir que du chlore a été libéré de cylindres par impact mécanique dans le quartier d'Al-Talil, la Sarakeb, affirme un communiqué de l'OIAC. Et puis le mois de jeûne de Ramadan commencera jeudi. C'est demain en Arabie Saoudite, le pays où se trouvent les deux principaux lieux saints de l'islam. Durant le Ramadan, un des 5 piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de manger, de fumer, d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Jean-Roger Billon, fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.